France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, 95, l'esprit de décembre. Épisode 3, marché au cœur de l'hiver. Le 16 novembre 1995, le Premier ministre Alain Juppé décide de se confectionner une cible et de se l'accrocher dans le dos. Ce jour-là, en effet, il déclare au quotidien Sud-Ouest « Si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n'y résistera pas. » C'est le lancement du Juppéton.
L'image du jour, c'est Alain Juppé qui a déclaré qu'il démissionnerait s'il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Alors jetons un coup d'œil au Juppéton. Ah, nous en sommes à 300 000 personnes dans la rue, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Alors nous attendons vos promesses de descendre dans la rue. Il faut qu'il y ait le chiffre 2 millions à ce compteur, hein. Même 3 millions, on peut y arriver, ensemble. Voilà, on continue.
La deuxième moitié du mois de novembre voit le mouvement s'amplifier dans la rue, tandis que des négociations sont entamées afin de répondre aux revendications. Du côté des cheminots, une première rencontre a lieu le 20 novembre entre les syndicats et la direction de la SNCF sans qu'aucune issue ne soit trouvée. Sur le front étudiant, le ministre de l'Éducation, François Bayrou, annonce le 22 novembre un plan d'urgence pour les universités au lendemain d'une journée d'action nationale. Il en avait déjà annoncé un premier, 17 jours plus tôt, en direction des établissements les plus pauvres, mais ni l'un ni l'autre de ces gestes n'apaise les étudiants grévistes. C'est le 24 novembre que le mouvement semble se cristalliser et dépasser les deux principaux foyers de départ que sont le monde étudiant et la SNCF. Une manifestation réunit ce jour-là un peu plus de 500 000 personnes, avec une nouveauté puisque dans les cortèges, on compte quelques délégations du secteur privé, Thomson, Alcatel, Dassault, Renault, Peugeot, d'autres encore. C'est comme si les revendications catégorielles venaient se fondre dans un désir plus large, celui de conserver en l'état le modèle social français ainsi que ses services publics. Quelque chose de plus profondément politique semble alors se mettre en place. Derrière des discussions assez techniques sur le contrat de plan de la SNCF et les réformes du financement de la sécurité sociale, on commence à apercevoir une autre ligne de fracture. Pour faire très simple, disons que l'on trouve d'un côté les partisans de la réforme visant à adapter la France à la mondialisation néolibérale et de l'autre côté, ceux qui considèrent que, au contraire, il convient de tout faire pour lutter contre cette mondialisation néolibérale. La question du financement de la Sécu dépend en effet d'une autre question qui est « Quelle société voulons-nous ?» Et là-dessus, les Français ne sont pas d'accord.
Le téléphone sonne. 45 24 7000. Au téléphone sonne ce soir, la crise sociale, maintenant tout est possible.
Le 30 novembre, la direction d'EDF-GDF comptabilise déjà 52% de grévistes et à la poste, les proportions sont similaires. Le 2 décembre, un sondage indique même que 62% des Français ont une opinion positive des grèves et manifestations.
Le téléphone sonne. Une émission animée par Christophe Ondelatte.
Bonsoir. Nous sommes ce soir à un carrefour important dans cette crise sociale, un carrefour primordial. Pourquoi ? Parce que bien demain, ce sera le 20e jour de grève, que 20 jours, c'est long pour les grévistes comme pour les non-grévistes. Et qu'aujourd'hui, loin d'assister à l'essoufflement du mouvement, on a vu défiler dans les rues de France un nombre record de manifestants. Certains affirment ce soir que le fameux cap des 2 millions de manifestants dans les rues aujourd'hui aurait été franchi.
Le pays entre alors dans une deuxième phase du mouvement. Et c'est toute la société française qui se met à vivre à l'heure des manifestations et des blocages, dans la liesse ou dans l'agacement. Car que l'on participe ou non, que l'on soutienne ou pas le mouvement, chacun est forcé de rejoindre la cohorte de ces marcheurs de décembre. Et c'est aussi cela qui reste, des décennies plus tard, dans le souvenir de ceux qui ont vécu ces semaines hors du temps. L'atmosphère de 95, c'est ce que nous allons tenter de vous faire revivre en archive tout au long de cet épisode.
J'adore la grève des transports en commun. Elle me permet de te voir plus longtemps les matins. Lorsque le trafic est perturbé, que j'attends le train à tes côtés, je prends le temps de rêver.
95, L'Esprit de décembre, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Xavier Joly, attachée de production, Lily Corner.
Les prévisions de Météo France pour ce jeudi 14 décembre, un peu plus de grisaille qu'hier, un peu plus de froid aussi, il devrait neiger sur la plupart des régions du Nord-Est. Neige également sur la Corse, le Var et le Vaucluse, les températures resteront proches de zéro toute la journée.
Décembre 95 est particulièrement froid sur la partie nord du pays, et notamment en Île-de-France, ce qui ne dissuade pas les manifestants de sortir de chez eux. Dans le village savoyard de Bessens, 350 habitants, on relève même jusqu'à moins 16 au début du mois de décembre. Bon, je n'ai pas réussi à trouver s'il y avait eu des manifestations contre le plan Juppé à Bessens, Haute-Savoie. En revanche, je sais qu'il y en a eu dans de nombreuses villes petites et moyennes, ainsi qu'en banlieue parisienne. Exemple en archive.
Moi, ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'était la petite manifestation qui a dû réunir 200-300 personnes sur Arcueil, avec les communaux, enfin tous les différents personnels qui travaillaient sur la municipalité. Donc c'est un petit cortège qui est passé dans des petites rues avec d'une petite commune avec des petites banderoles, et de voir les interactions qu'il pouvait y avoir, les échanges qu'il pouvait y avoir entre les manifestants et puis les gens qu'on croisait, quoi. Et j'ai trouvé ça très important aussi que des gens manifestent dans leur ville aux yeux et à la vue des gens qui vivaient au même endroit, et de voir tous les échanges qu'il pouvait y avoir et qui peuvent pas vraiment se passer sur une manifestation énorme, parce que c'est difficile, ou sauf de manière très isolée. Mais là, sur tout le parcours, on a fait tout le tour d'Arcueil, un petit peu dans Cachan. On discutait avec des gens qui témoignaient de ce qu'avaient pu être les luttes pour la sécurité sociale il y a 40 ans ou 50 ans. Et tous ces échanges-là, je les ai trouvés très, très forts, quoi.
À titre personnel, je ne trouve pas que le mot « interaction » soit un si gros mot que cela. Je trouve même un peu étonnant que ce professeur des écoles semble presque avoir honte de l'utiliser. Sans doute a-t-il considéré que prononcer ce mot faisait de lui un premier de la classe, un intello, une élite en somme, en tous les cas, un opposant au peuple. En 95, comme dans beaucoup de conflits sociaux, les élites ont été pointées du doigt, à tort ou à raison, sans d'ailleurs que l'on sache très bien de qui il était question, mis à part de Juppé lui-même qui incarne cette élite. Il est vrai, avec l'ENA et l'école normale supérieure dont il est issu, avec aussi une certaine rigidité dans son attitude, assimilée à l'élite. Mais est-ce que le fait d'utiliser le mot « interaction » suffit à vous extraire de la communauté des gens du peuple ? Est-ce que le fait d'utiliser le mot « interaction » vous empêche à jamais de comprendre vos semblables ? Ce n'est pas sûr. À l'inverse, il est tout à fait possible de ne jamais utiliser de mots compliqués et de faire néanmoins partie de l'élite. C'est le cas de Donald Trump, qui trouve sûrement ridicule et précieux l'emploi du terme « interaction » et qui pourtant ne vit pas comme les gens du peuple, me semble-t-il, avec un niveau de vie qui, bizarrement, ne semble pas choquer une grande partie du peuple américain. Attention donc à ce que l'on met sous le terme d'élite et à ne pas toujours éviter les mots compliqués, car un jour, tous les intellectuels seront qualifiés d'élite et on brûlera tous les livres. Fin de la parenthèse. En ce mois de décembre 1995, qu'ils le désirent ou non, les Français sont donc des acteurs de ce mouvement social et vivent à son rythme nouveau. Ils expérimentent un autre rapport au temps, d'autres relations avec des inconnus, une suspension de la routine. Sur France Culture, l'émission Les Nuits Magnétiques tente de saisir en temps réel l'atmosphère de cette vie quotidienne repensée à l'heure des grèves.
Celle que j'ai vue changer, c'est la ville des voitures. Cette espèce de ville avec des regards indifférents qu'on jette à travers un pare-brise protecteur, comme ça. Et puis d'un seul coup, ce que je pourrais nommer des envahisseurs. Et à cause de ça, une complicité très différente s'est installée entre les automobilistes, et pas une complicité mécanique qui est à peu près la seule qui existe d'habitude. Et en ce qui me concerne, c'est de Porte-Saint-Cloud à Porte-Dauphine exactement que j'ai vu surgir du néant des trottoirs qui sont habituellement sinistres et vides, des gens, et ces trottoirs d'un seul coup sont devenus moins sinistres, peut-être à cause de la neige, et puis cette espèce de frénésie de marche qui prenait tout le monde se communiquait finalement aux voitures. Et en fait, moi je suis tombée dans un traquenard,
Ah bon?
Et le premier dans lequel j'ai été attirée, c'était devant le lycée Claude Bernard. Alors, à moitié caché, je ne sais plus très bien si c'était par l'arrêt de bus ou par la Sanisette de Caux, se trouvaient en apparence deux amis qui se seraient levés un petit peu tôt, en train de bavarder. En toute innocence, je m'arrête au feu rouge, et d'un seul coup, surgissant de cet arrêt de bus Sanisette, une des deux complices empoigne la portière, lourde, et me dit « je vais porte-maillot ». Alors, moi, j'ai eu l'erreur fatale, j'ai hésité une seconde, et c'était fini. Cette gentille vieille dame au chignon bien tiré était assise à côté de moi, sans ceinture, droite comme la justice et attendant que je redémarre. Alors j'ai un petit peu observé, elle avait des mains gantées de noir, des chaussures bien cirées, et en théorie, bon, elle était censée avoir de bonnes manières et pas grimper comme ça dans une voiture avec une inconnue. Elle était absolument scandalisée, parce qu'elle était devenue, comme toutes les autres, m'a-t-elle dit, une autostoppeuse. Elle m'a avoué qu'elle avait eu vraiment très très longtemps à ce feu, au moins 5 minutes.
La voiture, espace privé par excellence, devient un lieu partagé, ou même parfois pris d'assaut par de vieilles dames en chignon, comme on l'a entendu dans cette archive. Les villes de France semblent avoir plongé dans une réalité parallèle et qu'on n'aurait pas cru possible, un moment suspendu où l'on se plaît à arrêter l'horloge infernale de nos vies quotidiennes. Dans les cortèges de 1995, une réalisatrice observe et participe. Dominique Cabrera, qui est en quelque sorte devenue la cinéaste de ce mouvement, tournera presque dans la foulée le film « Nadia et les hippopotames » sorti sur les écrans en 1999. Le film commence par des scènes d'ambiance. On y voit Paris embouteillé, les gares vides de voyageurs, on voit des phares de voitures aux ampoules jaunes qui nous permettent aussi de mesurer la distance avec aujourd'hui. Nadia et les hippopotames est un film de fiction, mais au plus proche de l'esprit de 1995 et de ses piquets de grève. En voici un extrait.
Enfin, attendre que les routiers soient en grève lundi, ils ont posé un préavis pour lundi, tu te rends compte, on ne passera jamais le week-end.
3 semaines.
Ah, c'est les jeunes, c'est pas les
vieux. Mais pourquoi ils décollent pas tout de suite?
On en leur prend. Mais c'est quand même dommage que les routiers rentrent pas en conflit quand même. Imagine la force qu'on aurait là.
Juste de bloquer le périph.
Là, ils auraient tout lâché.
J'entends bien qu'on est tous ensemble, il faut qu'on reste ensemble, la question n'est pas là. La question est qu'on est désarmés. La classe ouvrière française, elle est désarmée.
Non, on n'est pas les armées, t'as vu un peu, on est là. Hein, ça fait un moment qu'on emmerde Juppé, hein, on est en train de lui faire mettre le genou à terre. Eh ben, il ne faut pas lâcher, mon vieux. Et dans les syndicats, c'est pareil.
Je ne suis pas de ton avis.
Eh ben, dans les syndicats, c'est pareil.
Mais ça changera quoi? Il a raison. Ça changera quoi, un nouveau syndicat?
Moi, j'arrive pas à y croire.
Il y a la manif, les gars, demain, ça va remettre un coup.
Puisqu'on a été obligé.
Bah, je sais pas, moi. Bah, je le sens pas, le coup, là. D'attendre lundi, pendant le week-end, tout le monde va reprendre. Ça va faire comme au 86. J'y crois plus.
Dominique Cabrera, vous êtes actrice et cinéaste, réalisatrice du film dont on a donc entendu un passage, Nadia et les hippopotames. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous avez vécu? Qu'est-ce que vous faisiez durant ces mois de novembre-décembre 1995
comme les autres, je marchais. Je travaillais porte de Vanves et j'habite Montreuil. Et donc,
c'est vraiment du nord au sud
voilà,
de Paris.
Voilà, c'est ça. Donc, parfois, je prenais un vélo. Parfois, je faisais du stop. Je marchais et je manifestais. J'étais très, très, très sensible à l'irruption dans l'espace public, à nouveau, d'une parole contestataire. Je me souviens de la joie, en fait, à entendre les bruits des tambours, en fait. Vous vous souvenez peut-être, il y avait les cheminots frappés sur des tambours, et puis faisaient aussi des feux avec les feux de détresse. C'était comme le signe que quelque chose renaissait, en fait, de la contestation politique. Et pour moi, c'était très important. Mais j'avais filmé ma vie, un journal de ma vie, pendant toute l'année 95. Et je ne pouvais pas vraiment, à ce moment-là, me mettre à filmer les manifestations ni la grève. Parce que je faisais des émissions et je pouvais pas, en fait, entre marcher et puis travailler, c'était impossible de faire... de filmer la grève et les manifestations d'une façon véritablement conséquente. Quoi.
Est-ce que vous avez rencontré des gens dans ces manifestations?
Je rencontrais des gens que je connaissais. Puis il y avait ce qui a été dit dans l'archive, là. Il y avait cette chose quand même qui n'arrive pas souvent, qui est arrivée au moment des Gilets jaunes, de la... la parole qui sort des registres habituels du quant à soi, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui se mettait à parler, à échanger, on était ensemble, quoi. C'est le cas de le dire. Donc, on échangeait des petits mots ou des grandes conversations. C'était un moment très fort, oui.
Mais pourquoi est-ce que cette relation, ces relations entre les gens, ça n'est pas le quotidien, au fond, notre quotidien? Parce que dans le métro, les gens sont les uns à côté des autres. Au fond, pourquoi est-ce qu'ils ne se parlent que dans des moments très spéciaux comme cela, selon vous?
Alors pourquoi, j'en sais rien. À un moment dans le film, il y a une séquence où les cheminots disent on sent que ça pourrait être différent, en fait. Voilà, je crois que ce film, Nadia l'hippopotame, c'est peut-être ce qui résonne aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire le fait que à l'occasion de cette grève de 95, on réfléchit, on rêve à comment la société pourrait être différente. Alors que dans le cours des jours, on a le sentiment que la manière dont on vit, c'est au fond naturel, quoi. L'espèce de la marchandisation de tout, c'est comme si c'était naturel. Alors, dans un moment comme une grève, surtout comme une grève comme celle-là, et on a eu cette impression aussi, peut-être au moment des Gilets jaunes, quand tout s'arrête, ou au moment du Covid d'ailleurs, quand tout s'arrête, alors on voit mieux que quelque chose pourrait être différent, parce que c'est déjà là, en fait. C'est déjà là, c'est pas seulement un horizon, c'est que si on regarde bien autour de nous, dans les relations entre les gens, dans une forme d'égalité, dans une forme de coopération, en fait, un autre monde est déjà là.
L'atmosphère particulière de novembre-décembre 95 est difficile à définir. Elle est faite de joie et de fatigue, de stress et de rire, d'agacement et de rencontres. Archive d'un cheminot qui répond au nom de Riton.
Là, vous vous retrouvez en plein milieu de la Révolution.
Il y a 4 semaines, je ne la sentais pas du tout. Et puis là, je la sens, oui. Enfin...
Qu'est-ce que vous sentez?
C'est cette ambiance, quoi. Cette ambiance. Enfin, je pense qu'on en est encore loin. Hein. Mais profondément, il y a des choses qui changent, quoi.
Alors, quelle ambiance?
Les gens qui sont solidaires.
Qu'est-ce que ça veut dire, la solidarité, aujourd'hui?
Un mec qui fait du stop, et puis qu'on le monte, et puis même qui fait pas du stop, on voit qu'il est là à pied, et puis que quelqu'un lui propose de le monter.
Alors, vous vous sentez amoureux, Riton. Pourquoi particulièrement en ce moment?
Parce que je m'épanouis, je m'extériorise...
Et ça, là, ça vous rend amoureux?
Oui, ça aussi, c'est la solidarité, ça, j'avais tout à l'heure...
C'est l'accent, là.
Ouais, c'est la solidarité, ça. C'est la solidarité, quand on se rencontre, on va frapper à la porte de chez quelqu'un qu'on côtoyait comme ça, et puis que on sentait que la porte s'ouvrirait pas facilement, maintenant, elle s'ouvre tout de suite, quoi.
Et ce sentiment, vous avez l'impression qu'il est partagé?
Ah oui, je sens qu'il est partagé, oui, parce que... quand je fais des avances, comme ça, entre guillemets, je sens que ça répond.
Dans l'archive, le cheminot utilise le vocabulaire de l'amour pour parler des relations entre les gens durant ces grèves. Il dit que lui fait des avances et que ça répond. C'est un vocabulaire que vous comprenez?
Ah, totalement, oui. C'est-à-dire que je trouve que je l'éprouve très souvent, enfin très souvent, dans les mouvements sociaux. C'est vrai qu'on ressent ça. On ressent que c'est comme si les membranes qui nous séparaient les uns des autres devenaient poreuses, en fait. Il y a comme une émotion qui circule, des émotions politiques et sentimentales qui circulent entre les personnes. Et ça nous agrandit, ça nous grandit. Un peu comme le sentiment amoureux, même beaucoup comme le sentiment amoureux, où ça circule avec quelqu'un, et c'est une espèce de miracle. Et quand ça circule entre des personnes, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Et d'ailleurs, ça m'a été, évidemment, quand j'ai travaillé sur ce film, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des cheminots, et ça m'a été beaucoup raconté comment, au moment du mouvement, des couples s'étaient formés, des amitiés s'étaient éprouvées, ou des disputes d'ailleurs, c'était passé évidemment, parce que la vie devenait passionnelle en fait, la vie devenait à inventer, alors que sinon on est pris dans une espèce d'engrenage, quoi. Et c'est ce qui est très, 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 très fort et très entraînant dans un moment révolutionnaire ou dans un moment de lutte sociale, c'est que on est transporté au-delà de soi. Mmh. On est agrandi par les autres.
Et dans votre film, il y a des histoires d'amour. Donc vous avez voulu reprendre ce thème, en fond.
Oui, enfin, c'est-à-dire que c'était ce qui m'était raconté. Et il me semblait qu'il fallait, non pas qu'il y ait des histoires d'amour parce qu'il doit y avoir des histoires d'amour dans un film, mais plutôt, ce qui m'était raconté, c'est qu'il y avait des histoires d'amour et d'amitié qui étaient nées à l'occasion du mouvement, parce que c'était une manière de vivre, en fait, peut-être la passion politique, d'aller un peu plus loin dans l'amour, en fait. On était poreux les uns aux autres.
Alors qu'on ressent que les événements approchent de leur pic, les antennes de Radio France cherchent à faire venir des acteurs du conflit dans leur studio. Mais la tâche est souvent rendue difficile par une raison tout à fait triviale. Les invités ont les pires difficultés à rejoindre la maison de la radio. Traverser Paris est en effet très compliqué, et c'est encore pire quand on vient de banlieue ou du reste de la France. Les embouteillages sont gigantesques, les transports publics bloqués, et c'est encore le vélo qui permet le mieux d'aller d'un point à un autre. Les reporters, en revanche, n'ont pas toujours à aller très loin pour recueillir les témoignages de Parisiens qui usent de tous les stratagèmes pour parvenir à se déplacer. Ils ont pu en trouver des exemples simplement en marchant jusqu'à la Seine et en montant dans un bateau-mouche, devenu pour l'occasion un bateau-bus.
Si vous avez des places libres à côté de vous, levez le bras. Oh là là ! Mais on laisse pas une place des personnes âgées en premier, hein. Fais descendre les vieux.
Mais il n'y en a pas de personnes âgées, elles ne travaillent pas, les pauvres.
C'est votre combienième aller-retour, là ?
C'est mon deuxième tour.
Ça vous change des touristes habituels, j'imagine ?
Oui, enfin, disons que pour l'instant, j'avais plus de touristes du tout, parce que j'étais au chômage, et on m'a rappelé pour la circonstance. Ouais, c'était la surprise, quoi. Si la grève est reconduite la semaine prochaine, on me refera un nouveau contrat. Pour les Champs-Élysées, c'est ici. Quand vous allez place de la Concorde, il faut remonter les Champs-Élysées. Alors là, on peut pas se tromper. On voit l'Arc de Triomphe au loin. Faut vraiment être bête pour se perdre. Vous pouvez prendre des documentations si vous voulez revenir en été. Si je veux que mon patron... faut y amener des sous. Si je veux qu'il nous paye. Si on veut du travail, il faut automatiquement faire un peu de pub.
Dominique Cabrera, qu'est-ce que vous retenez de cette archive ?
Ben, juge les bateaux sur la Seine. Ben, l'idée que, justement, puisqu'il s'agit d'eau, en fait, les eaux glacées du calcul égoïste ne nous rendent pas heureux. Alors que la générosité, la solidarité, on l'entend bien dans les voix, d'ailleurs, que vous avez diffusées. Lui, il est un peu... il est un peu noué, quoi. Il est un peu... Ah, il sait pas trop où aller, quoi. Il sait pas trop comment exister. Alors que les autres voix que vous avez diffusées, on sent un épanouissement. Et il vient d'où cet épanouissement ? Il vient des relations avec quelque chose de plus grand que soi, avec la générosité, avec les autres, en fait, avec un horizon qui est celui d'une forme de fraternité.
Est-ce que vous avez pris des moyens de transport étonnants durant cette période à Paris ?
Ben, étonnant, non.
Vous n'avez pas pris le bateau-mouche ?
Non, ça a été à pied. Ben, j'ai été prise en stop par un tas de gens, hein, bien sûr, dont des anti-grévistes, d'ailleurs, et avec des discussions. C'est difficile de discuter avec des personnes avec qui on n'est, au fond, pas d'accord sur les principes, sur les valeurs. Mais c'était intéressant. Je pense que c'était intéressant pour moi, mais aussi pour eux, d'essayer de trouver du commun, en fait. Au fond, ce qui est fort dans l'idée de la sécurité sociale ou du service public, c'est que le commun, il est plus important que les intérêts privés. Et dans une conversation avec des personnes avec qui on n'est pas d'accord, bah, essayer de trouver un terrain commun, c'est un peu la même chose, en fait, au fond, hein.
Parmi les émissions qui ont couvert le quotidien perturbé des Françaises et des Français durant cette grève de 1995, figure, bien entendu, l'émission de France Inter, Là-bas si j'y suis.
Là-bas si j'y suis.
Je dis bien entendu parce que le principe de cette émission était justement de laisser beaucoup de place au reportage et aussi parce qu'elle le faisait avec un parti pris assumé en faveur des luttes sociales. L'émission avait été créée par Daniel Mermet en 1989. Elle était donc âgée de 6 ans en 1995 et il lui restait presque 20 ans à émettre jusqu'en juin 2014. Les reporters de l'émission s'étaient donc promenés dans Paris, micro en main, pour recueillir des impressions de personnes favorables mais aussi défavorables au mouvement, comme ici avec ce reportage de l'émission du 12 décembre.
Ils sont sympathiques quand même.
Qui ?
Les cheminots.
Ils sont sympathiques, ils sont pas vraiment, ils sont en train de nous couper l'herbe sous le pied. Comment sympathiques, hein, monsieur Jaufaux ?
Pardon ?
Les cheminots, madame, elle dit qu'ils sont sympathiques, ils nous coupent l'herbe.
Les cheminots sont tous très sympathiques, mais seulement nous, nous sommes spoliés. Nous sommes spoliés, nous travaillons plus, nous faisons rien. Il y a des pères de famille qui ont deux gosses, qui ont trois gosses, qui n'ont pas de quoi bouffer. Ça, c'est gentil. On peut faire, je suis pour les droits sociaux, ben, je suis pour que tout le monde puisse manger. Et pour que tout le monde puisse manger, il faut faire... Faut discuter, faut négocier, faut faire tout ce qu'on veut, mais faut assurer aux gens leur travail. Il y a des gens qui défendent leurs droits acquis, les sociaux, et il y a ceux qui défendent leur bout de pain. Tout ça, toute la population va la payer. Comprenez ? Voilà. Et je l'ai dit. Et oui, celui qui dit, c'est Jaufaux, le grand coiffeur, qui est ouvert tous les jours pour assurer de gagner sa vie. Et pour assurer le pain de tout le monde. Et j'ai 67 ans, l'âge de la retraite, et je suis là pour assurer, pour garder le moral. Voilà.
Et vous avez le moral ?
Il commence à baisser.
Dominique Cabrera, que vous inspire cet archive avec Jaufaux, le grand coiffeur.
Bah, ce que ça m'inspire, c'est que quand la vie est très dure, en fait, on a le choix entre s'ouvrir aux autres ou se fermer. Voilà, et on l'entend là. Cet homme, après je comprends bien sûr sa détresse, réellement, mais cet homme pourrait aussi imaginer quelque chose d'autre. Il pourrait imaginer, je sais pas, enfin je vais pas me mettre à sa place, mais il pourrait imaginer quelque chose d'autre plutôt que d'être recroquevillé. Et c'est une souffrance en fait quasiment d'entendre, non pas sur le terrain des opinions, mais sur le terrain de ce qu'on ressent en fait, de son amertume. Il aimerait... être généreux, mais il ne sait pas comment faire. Et je pense qu'un mouvement social comme les grèves de 95 ou comme les Gilets jaunes ou d'autres en ce moment, enfin ce qu'on on sent que il y a d'autres manières d'être qui essayent de s'élaborer en fait, d'autres manières d'être entre les hommes et les femmes, entre les uns et les autres, enfin entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Voilà, moi je suis pour essayer de regarder de ce côté-là plutôt que de se laisser fasciner par les forces noires terribles qui nous menacent. Hein. Évidemment, quand on pense à 95 et à aujourd'hui, d'une certaine façon, la situation est bien pire. Alors que au moment où nous, on fait le film en 98, on a le sentiment que quelque chose s'ouvre.
J'espère que vous êtes en forme parce que 18e jour de grève, la mobilisation est très très forte chez les cheminots, elle se renforce dans les autres services publics, et ça c'est important.
Le moment 95 a représenté davantage qu'une opposition au plan Juppé. Il a constitué un terreau fertile aux histoires et aux rencontres, un moment de sortie de la routine, une redécouverte du fait que nous sommes des animaux sociaux qui aimons à l'occasion nous rapprocher de nos congénères quand les circonstances le permettent, ou plutôt quand elles nous y forcent. Mais 95 a aussi été un moment de débats politiques et intellectuels. Et une figure en particulier a donc incarné ce soulèvement, celle du philosophe et sociologue Pierre Bourdieu. Face à lui, d'autres intellectuels se sont rangés, de façon plus ou moins critique, derrière la réforme du gouvernement. C'est de cette bataille idéologique, de ce décembre des intellectuels, dont nous allons parler maintenant.